Jaïs.
Dans la question, c'était tout à l'heure, là, c'était par la Torah, en fait, le mauvais œil. Est-ce qu'il y a un moyen de l'éviter?
Le mauvais œil, le haïnara. Ah, le haïnara, hein, c'est une chose qui existe. La Gemara, elle dit, si je me souviens, c'est bien Rava qui a dit ça, qu'une personne sur 100 ne meurt pas de haïnara. 99% meurt de haïnara. L'haïnara provient d'un défaut que nous avons tous, un défaut de fabrication dû à nos ancêtres qui remonte à la Première Guerre mondiale, dans laquelle un quart du monde a été anéanti. C'était quand? Première Guerre mondiale? Non. C'était Caïn et Abel. Caïn et Abel. Caïn tue Abel. Et comme ça, anéanti un quart de l'humanité. Pourquoi? Ben, il y avait Adam et Ève. Il y avait Adam et Ève, Caïn et Abel. Voilà. En tout cas, le texte, il raconte ça. Et Caïn, il avait l'agriculture. Ève, il avait l'élevage de bétail. Ils avaient tout à terre. Et c'est insuffisant. C'est quoi insuffisant? J'ai suffisamment. J'ai suffisamment. Ça me dérange que l'autre a. Ça, c'est Ayin Hara. Ayin Tova, c'est une chose qui est très dure, mais nous devons arriver à avoir cela. C'est marqué que les élèves de Avraham, Avinu, ils ont trois qualités. Nefesh Shfela, c'est-à-dire ils ne recherchent pas les envies des plaisirs de ce monde. Ruach Nemucha, ils sont humbles. Ve Ayin Tova, ils regardent l'autre avec un bon œil. C'est-à-dire quoi? Être heureux que l'autre a. Être heureux de la réussite de l'autre. Être heureux du bonheur de l'autre. Beaucoup de gens, je vous dis la majorité, nous tous avons ce défaut de fabrication dû à Caïn et Ève, c'est dans l'humanité, que même si j'ai tout ce qu'il me faut, si l'autre a, il réussit, quelque part, ça peut me déranger. Et des fois, quand il a malheur, ah, ça me fait plaisir. Ça me laisse un tordu. C'est un tordu. Mais nous sommes tordus. Nous sommes tordus. Et ça, c'est marqué que c'est les qualités de Bilham, les élèves de Bilham Arasha. Aïn Ra, le mauvais œil de Bilham. Ruach Gvoa, il était orgueilleux. Nefesh Rechava, une âme large, c'est-à-dire il aime les plaisirs de Olam Hazeh, de ce monde-ci. Nous devons nous battre, parce qu'on a chacun en nous, on a les deux tendances, Bilham et Avraham. On peut être élève de l'un, élève de l'autre. On doit tendre à être élève de Avraham Avinu. Donc Aïn Ra, c'est le regard de la personne sur une autre avec étroitesse. Ça me dérange, ça me fait mal, je lui en veux, je suis jaloux. Et ça a un impact. Ça a un impact. C'est vrai qu'il est bien de dire, quand on regarde quelqu'un même avec un bon œil, avec gentillesse, c'est bien de dire « Aïn Ra ». Ou « Ben Porat Yosef ». Yosef, c'est lui qui a, on va dire, le prototype du grand Aïn Ra, c'est Esav. Esav. Esav, il vient avec 400 hommes. 400, Gematria, Aïn Ra, mauvais œil. D'ailleurs, l'histoire raconte, Yaakov court vers Esav, se prosterne cette fois, il embrasse. Esav vaïssa, Esav etenav. Et Esav, le texte raconte chaque détail. Vaïssa, Esav etenav. Esav a levé les yeux. Vaïar, et il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'un tordu regarde en premier? Les femmes. Regarde Tanachim, regardez les femmes. Après, il a dit, les enfants. Tordu, tordu. C'est un Esav moyen, d'accord? Tu ne peux pas regarder une femme sans la regarder. Dip, dip. Vous connaissez ça? C'est marrant, parce que quand il y a une femme qui passe, moi je ne regarde pas la femme, je regarde les garçons. Dip, dip. Ou d'autres femmes, dip, dip, parce que, Aïn Ra, comment est habillé, zip zip. C'est pas zip zip, en bas, c'est en haut, en bas, en haut. Puis les tordus, c'est en haut, en bas. C'est les super tordus. Yosef, le fils de Rachel, à l'époque le seul fils de Rachel, Rachel était belle. Il ne voulait pas que Esav la voie. Alors il se met devant elle. Grâce à cela, il reçoit une sgoula, un pouvoir d'être l'antithèse de Aïnara. Et quand Yaakov, son père, va le bénir, il va dire ainsi, Ben Porat Yosef, fils de Porat, c'est le hen, le charme de Yosef, Ben Porat, fils du charme, Aleain, tu es au-dessus des yeux. C'est-à-dire que Esav n'a pas de puissance sur toi. Tu es au-dessus des yeux de Esav. Beaucoup plus profondément, ça nous concerne aujourd'hui, c'est marqué que tu es en quatre exils. Premier exil, enfin on est en exil parmi quatre royautés. Première royauté, Babylone, Nebuchadnezzar qui détruit le temple de Jérusalem et nous déporte en Babylonie. Après, dans la même période de 70 ans, c'était la Perse. Après la Grèce, après Édom. Édom, c'est Esav, c'est l'Occident. Ce plus long exil, dont on ne voit pas le bout, dans le début de la Torah, Bereshit, c'est marqué, la terre était tohu bohu, l'obscurité planait sur la surface du précipice, Ruach Elohim, et le nom de Dieu, le Ruach, le souffle de Dieu, plane sur la surface des eaux. Le Midrash dit, ça correspond à toute l'histoire. Tohu, c'est l'exil, la royauté de Babylonie. Bohu, c'est la Perse. Roche, obscurité, c'est la Grèce. C'est pour ça que nous allumons contre la puissance grecque, on allume les bougies de Hanouka, la lumière. Hanouka, c'est pour commémorer, pour, on va dire, pour nous... Pas commémorer. Pour renouveler, pour renforcer la lumière d'Am Israël par rapport à l'influence grecque qui était obscure. L'obscurité, sur la surface du précipice, le précipice, c'est l'exil d'Édom, parce qu'on n'en voit pas le bout. Extrêmement long. On est encore aujourd'hui, nous considérons dans l'exil de Édom. Donc à l'origine perpétrée par la nation romaine, mais par extension, Rome, c'est tout le monde occidental jusqu'à aujourd'hui. Et c'est marqué que Yaakov, durant tout l'exil, est comparé à une étincelle. Mais à la fin, l'étincelle devient un feu. Vaya Bet Yaakov Esh, Bet Yosef Lehava, la maison de Yosef, une Lehava, une flamme. C'est-à-dire que l'étincelle va, elle s'épanche, c'est notre époque aujourd'hui. Baruch HaShem, où la tchouva commence, la vérité commence à dire « j'existe ». Et le mensonge disparaît, l'un après l'autre. Un temps, il y avait un mouvement qui s'appelait le futurisme. Les gens croyaient qu'avec la technologie, on arrivait au bonheur. Aujourd'hui, tout le monde sait que la technologie n'amène que le malheur. En tout cas, pas que le malheur. En tout cas, c'est pas ça qui amène le bonheur. On a cru au communisme, au socialisme, au nazisme, au capitalisme. Patatras, l'un après l'autre. Tout le monde tombe. À la fin, il y aura la vérité. À la fin, il y aura la vérité. Ça s'appelle cette... L'agent qui va réussir à casser Esav, c'est Yosef. Donc Yosef, au niveau profond, c'est cela. C'est celui qui est au-dessus de la maîtrise de Esav. Mais au niveau technique, on va parler maintenant de Aïnara, c'est Yosef qui se cache devant, qui fait écran entre Esav et Rachel, et grâce à cela, donc il est la puissance contre le Aïnara. Il y a une Sgoula contre l'Aïnara. Ça veut dire, c'est un truc qui est... quand on dit Sgoula, ça veut dire, ce n'est pas rationnel, c'est dans l'irrationnel et un peu magique, d'accord? C'est pas comme l'Aïnara fonctionne et c'est un peu magique. Il y a aussi des combines anti, d'accord? Alors regardez comment on fait, parce que les gens n'arrivent pas très bien. Il faut s'attraper les pouces. Alors on met comme ça, voilà, et on attrape les pouces. Pas compliqué, hein? Comme ça, voilà, on attrape les pouces. Et on dit... En araméen, mais on peut dire ça, j'imagine aussi en français ou en hébreu. Ana, je, Mizara de Yosef Tzadika Kaatina, je viens de la descendance de Yosef. de l'eau chaltabé, sur laquelle il n'y a pas de puissance, aina bicha du mauvais œil. Je viens de l'essence de Yosef le tzaddik, sur laquelle il n'y a pas de puissance du mauvais œil. Tu fais comme ça, c'est un truc contre le mauvais œil. D'accord ? Lorsque Yaakov pose la question, Esa pose la question à Yaakov, c'est qui ceux-là ? Il voit les femmes et les enfants, c'est qui ceux-là ? Qu'est-ce qu'il répond à Yaakov ? Ha Yeladim, les enfants que Dieu m'a donnés. De là on dit Chazal, Ha, c'est quoi Ha ? Hey, 5. Là l'origine de la Hamsa du 5 contre le Aïnara. C'est un truc qui marche. Bla Aïnara. D'accord ? Le 5, c'est un truc qui marche. Moi, je ne suis pas un genre 13, goula, machin, tout ça. Chez moi, il y a ça. Pourquoi ? Le rabbi Sonaba Shaoul, chez lui, il y avait. Il a dit que c'est bien de le mettre. Même les grands sages d'Israël, voilà, le rabbi Sonaba Shaoul m'a raconté, lui-même a raconté. Ils avaient un nouveau frigo chez eux à la maison. Ça arrive même dans les meilleures familles. D'accord ? Et il y a une visite d'une école. Quelques classes de jeunes filles, de milieux défavorisés, sont venues chez le rabbi. Bon, ils passent dans la cuisine, ils voient le nouveau frigo. Oh, le beau frigo ! Oh, le beau frigo ! Oh, le beau frigo ! Quand ils sont partis, la femme du rabbin m'a raconté, donc, ils ont amené un technicien, il n'a pas cru ce qu'il a. Il n'a jamais vu ça, d'accord. Il a implosé, tous les ressorts, les tuyaux qui sortent comme ça, d'accord. Plus de nouveau frigo, plus de nouveau frigo, terminé. Ça a une puissance, ça a une puissance. On m'a raconté qu'au Maroc, il y avait une dame, elle était connue, elle pouvait faire couler un bateau comme ça. Elle fait, Aïnara, tu sais que le bateau, il coule, elle a une puissance terrible. Il y a des gens qui ont une puissance là-dedans. C'est vrai, maintenant, plus quelqu'un, il est macpide, il fait attention à ça, plus ça marche. Voilà, alors, ne pas y croire non plus, du tout. Moi, je suis du genre, j'en ai rien à faire de ce genre de truc. D'accord ? Il m'a arrivé une histoire, j'ai déjà raconté sur Internet, ceux qui ont déjà vu, ce sera une répétition, d'accord ? Une fois, j'ai fait un séminaire à Lyon, et ça marchait très bien. Bon, puis il y avait un rabbin là-bas qui est venu visiter, puis je vois que ça le travaillait, j'étais plus jeune que lui, et puis il y a de l'impact, les gens font tout à lui, les rabbins de la communauté depuis, il n'y a rien qui bouge jamais, d'accord ? Bon, il voit ça, je vois qu'il me regardait. Bon, déjà, bon. Mais moi, ok, moi, je fais pas attention à ça, les chemchamaïm, ça ira très bien. Puis à la fin du séminaire, il y a un symposium, les gens viennent s'exprimer. Puis un qui commence les tartines. Rav Shaya, si jeune, réponse à chaque question, jamais vu ça. Puis le rabbin, il est là, il a tartine et le machin. Bon, ok, moi, je fais pas attention à ça. J'allais chez un copain passer la nuit, le lendemain matin, je me lève, mal au ventre. Après un séminaire, j'ai perdu 2 kilos. Déjà, je suis pas très gros comme ça. Là, alors déjà, j'étais affamé. Après un séminaire, je suis affamé, je perds énormément beaucoup d'énergie qui part. Je dois manger. Gastro. Le séminaire finit dimanche soir. Gastro, au lit, jusqu'à vendredi matin. Alors, en Israël, c'est un vendredi matin. Vendredi matin, je me lève, enfin, titubant. Je sors un peu, je prends l'air. Je reviens, j'ai de la fièvre, angine. Antibiotique. Dimanche soir d'après, je suis à 11h dans mon lit, je sens que je ne m'en sors pas, je m'enfonce dans le lit, je sens que je suis à bout de force, je ne m'en sors pas. Affaibli, très affaibli, la fièvre, ça ne va plus. J'appelle mon copain, mon Chavruta, c'était mon rave et Chavruta pendant 15 ans, d'origine yéménite. Il a une combine qui me racontait, aujourd'hui j'ai mis sur le site, combine avec le plomb, d'accord ? On prend du plomb. On met dans une casserole qu'on met sur le feu, et au-dessus de la tête du type, ou s'il n'est pas là, on peut faire à distance. Et on dit que tout le Aïnara qui assure X fils, un tel fils de un tel, qu'il partait. Une phrase qu'il faut dire, j'oublie, j'ai mis sur le blog là-bas. Comment faire, ceux qui sont intéressés, allez sur le blog. Léava là-bas mettez Aïnara, voilà, tout, on explique comment faire. Et on verse dans de l'eau. Il y a une dame qui fait ça ici à Jérusalem, elle prend 50 shekels pour ça, c'est tout simple à faire. Bon, on peut faire ça, n'importe qui veut faire un business, il peut faire ça, c'est pas compliqué, d'accord ? On met le plomb dans l'eau. Et s'il n'y a pas de Aïnara, il n'y a rien qui se passe. Le plomb, il se durcit dans l'eau, normalement. S'il y a du Aïnara, dans le plomb apparaissent comme ça, tout d'un coup, des boules. Des boules. Chaque boule, c'est un Aïnara. Des fois, tu as des grosses boules, c'est un gros Aïnara, des petites boules, d'accord ? Tu refais 2 fois, il y a encore des boules. 3 fois, 3-4 fois, au bout d'un moment, c'est terminé, il n'y a plus aucune boule. C'est le même plomb que tu reprends, il y a des boules. Au bout d'un moment, il n'y a plus aucune boule. Bon, j'appelle mon copain, 11h, je raccroche. Il m'a fait ça à distance. Messieurs, je pense pas que c'est un placebo, un truc psychologique, autosuggestif. Après 10 minutes, je me sentais, voilà. Je n'étais pas guéri, mais ça allait. Le lendemain matin, je l'appelle, alors ça a été, il m'a dit, j'ai fait 28 fois. Il y avait encore des boules, j'en ai ras-le-bol, je suis allé dormir, d'accord ? Il y avait encore des boules. Donc, ça existe quand même. Donc c'est bien de faire attention. Maintenant, pas rentrer en psychose, depuis je ne suis plus jamais refait, bien que je suis très exposé aussi. Ok, on ne se casse pas la tête, Bezrat Hashem. Le Rav Dessler, il dit, c'est un truc qui existe, le meilleur moyen, c'est éviter le regard des autres. Mais c'est très dur, tu vas te cacher sans cesse, on va plus un cours, je fais un cours sur Internet, je mets un écran noir, enfin, on peut pas faire comme ça, c'est pas... Donc, essayez de... J'imagine que quelqu'un qui est Tov Ain lui-même, qui regarde les autres avec clémence, avec amour, avec il est heureux que l'autre a, alors, Mida Kedemi Mida, je pense que Dieu... étant juste, mesure pour mesure, il va aussi éviter que le Ayin Hara lui fasse du mal. Comment ça fonctionne? Comment se fait-il que le regard de l'autre fasse que tout à coup quelqu'un ait le cop? Je veux dire, c'est pas... Il y a un Dieu qui gère un peu le monde. Alors, le système de fonctionnement du Ayin Hara est le suivant. Normalement, quelqu'un fait une bêtise... Normalement, il doit écoper directement. Aucune raison que Dieu attend. Tu as fait une bêtise, tiens, récolte tout de suite le fruit négatif de ta bêtise. Deuxièmement, il devrait même mériter la mort, parce que tu t'es révolté contre le Créateur. Il te faut la mort, normalement. De plus, il est impossible que le regret, que la tchouva, répare ce que tu as fait. Quelqu'un a fait une chose répréhensible. Il a giflé son copain. Il a une relation interdite avec une fille. Il a mis du poil à gratter dans le lit de son copain. D'accord, n'importe quoi. Il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Cette chose-là, il a fait un lachonara. Quelqu'un doit faire un chidour, il a fait un lachonara, et à cause de ça, son mazal passait sous le nez. D'accord? C'est grave. Tu peux tuer quelqu'un avec une seconde de... Ah, lui, ah. Hein, ça, le A que t'as dit, voilà. Tu peux récolter des milliers d'années d'enfer pour le A que t'as dit. Terrible. La puissance de la parole. Normalement, tu devrais écoper tout de suite. Et pas de recours possible. Pas de récupération du... Le passé est passé. Viens la tchouva qui dit non, tu peux. Tu dis j'ai péché, je regrette, je prends sur moi, t'effaces. Et si c'est fait par amour, c'est transformé en mérite. C'est extraordinaire. C'est pas normal. Comment ça se fait? Dieu a voulu créer le monde avec Minatadin, avec l'attribut de rigueur. Et vu que le monde ne pouvait pas subsister. Rigueur, Dieu, quand est-ce que Dieu a utilisé l'attribut de rigueur? La Shoah. C'est impossible. C'est... Tu passes pas. Dieu a vu que le monde ne pouvait pas vivre comme ça. Il a associé l'attribut de miséricorde. Ça veut dire qu'il nous laisse le temps, pas directement en écope. On peut faire tchouva, et c'est valable. Dieu va considérer que le regret d'avoir fait, c'est comme si tu n'as pas fait. Ça déracine le fait que tu as tellement voulu, tu veux tellement que ça n'ait pas eu lieu, alors vraiment Dieu compte comme ça n'a pas eu lieu. Si c'est vraiment une tchouva sincère, solide. Troisièmement, qu'il n'y a pas la mort, il y aura moins. Il y aura une sanction, mais pas la mort. En tout cas, pas dans tous les cas. Donc en fait, dans le ciel, il y a deux attributs. Justice et miséricorde. Maintenant, c'est Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah, c'est le jour de la justice. Dieu va en tant que juste. Tout notre job à nous, pendant Rosh Hashanah, c'est adoucir cette justice. Comment le chauffard? Le chauffard, c'est marqué que Dieu quitte son trône de justice, se met sur son trône de rachamim, de miséricorde. Ça veut dire que dans le ciel, quelque part, Dieu a créé, et la justice, elle est nécessaire. Comprenez pourquoi elle est nécessaire. Alors que Dieu crée un monde que de miséricorde. S'il y a miséricorde, il n'y a plus d'être. Nous voulons être. Pour être, c'est que j'ai droit. J'ai droit, c'est une sentence, c'est une phrase de justice. D'après la justice, j'ai droit. Il me revient. Dieu, vous nous donnez, mais qu'on ait droit. Que c'est vraiment moi. C'est moi qui ai créé, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai réussi. Donc pour qu'il y ait un moi qui puisse exiger, il faut qu'il y ait la justice. C'est que justice, le monde n'est pas viable. Donc il y a les deux. Il faut qu'il y ait les deux dans le monde. C'est nécessaire, sinon le monde est bien seulement avec les deux. Mais il y a quelque part une bagarre entre les deux. Alors quand quelqu'un va, par exemple, utiliser lui-même l'attribut de miséricorde, par exemple, quelqu'un lui dit triple idiot. Bon, il laisse passer. Je te dis triple idiot. Tu dis à moi, toi, ton père, ton grand-père, toute ta famille, tes enfants, jusqu'à, vous êtes des crétins finis. Tu viens de lui rendre service, tu l'as prêté maintenant 1000 dollars, d'accord? Et toi, ça fait, il devait te le rendre après 2 jours, ça fait 3 ans qui sont passés. Tu viens lui demander, je m'excuse de te ranger, peut-être je te rappelle les 1000 dollars, et lui, d'accord? Tu peux commencer à t'énerver. Mais je t'ai rien fait. Quoi, tu m'as rien fait? Et bon, il te crache dessus. Non, mais n'exagère pas. Il te flanque une tarte. D'accord? D'après la justice, tu as ici une pulsion qui monte et je laisse quinter. Et tu es, par hasard, lui le ne sait pas, d'accord? Tu es ceinture noire de karaté. D'accord? Ça arrive des fois. D'après la justice, tu as raison. Tu passes manque de reconnaissance, une ordure, t'as rien fait, tu as rendu service comme ça, il te rend. Une bonne fessée, pas trop, mais comme ça, contrôlée, hein, petite fessée. D'accord? D'après la justice, tu as entièrement raison. Tu t'écrases. C'est une puissance, ça. C'est marqué que Tolé Eretz Albima. Dans Job 26, c'est marqué, Dieu suspend le monde sur Blima. Blima, au niveau du sens simple, c'est sur rien. Le monde est suspendu sur rien. Mais Blima signifie aussi freiner. Celui qui freine sa bouche, côté une bagarre. Par contre, histoire en passant, parce qu'elle est belle. Elle est connue aussi, j'ai raconté souvent sur Internet. Il y a un type qui ne peut pas avoir d'enfant. L'Oralen ou l'Oralechem. Il va voir le top niveau des brachot en Israël, ou à Hakodesh peut-être. Peut-être le top niveau, et certainement Roi HaKodesh, Rabbi Chaim Kanevski. Tzadik, fils de Tzadik, fils de Stipler, Rabbi Chaim Kanevski. Pour situer un peu comment ça marche chez lui, Rabbi Chaim Kanevski. Un Rav de Yeshiva ici, d'accord, dont je ne citerai pas le nom, dont le beau-père est très mal, il a la maladie de beau-père, il est très âgé, la maladie. Il doit mourir, il a la maladie. C'est clair, il va mourir un de ces jours. Les vendredis, il se met à tousser, on l'amène à l'hôpital, les poumons sont remplis d'eau. Ça veut dire chez les médecins que c'est fini, c'est la fin, c'est la phase finale. Ça n'a rien de vider les poumons d'eau, parce que dans un quart d'heure, ça se remplit de nouveau d'eau. Il n'y a rien à faire. Donc, ils ont dit, amenez-le dimanche à l'hôpital, c'est terminé, amenez la famille, en quelques jours, et c'est une mort très très douloureuse, c'est vraiment par étouffement terrible. Le Rav est ici en Israël, sans aucun espoir, désespéré, il dit, il appelle un copain, écoutez, si moi avoir un rendez-vous chez le Rav Chaim Kanevski, il est par pisson, il arrive vendredi, le Rav ne soit pas normalement, il va, il dit, quoi, le Rav, piquoir nefesh, mon beau-père est très malade, la maladie, bon, ça c'est fini, au moins que le Rav prie qu'il meure sans douleur, que Dieu lui enlève la douleur. Il dit, Yeratson, qu'il y ait une volonté, que Dieu fasse qu'il n'ait pas de douleur. Dimanche, la belle-mère dit, c'est marrant parce que tout Shabbat, il a arrêté de tousser. Il amène dimanche à l'hôpital, ils reçoivent, font une radio des poumons, plus rien. Les poumons étaient pleins d'eau, ils sont pas sortis, l'eau ne peut pas disparaître comme ça. Dimanche, il n'y a plus rien. On leur dit, mais je ne comprends pas, on l'a amené à l'hôpital, écoutez, on a fait une radiographie, c'est vide, là c'est vrai, c'est plein, là on ne comprend pas, mais en tout cas, c'est vide. Rentrez chez vous. Une parole de Reb Chaim. Ce monsieur qui n'avait pas d'enfant va voir Ebrahim. Il dit, quoi, le Rav, faites-moi le bras pour voir les enfants. Il voit tout de suite, hein, les rabbins voient tout de suite. Je ne peux rien faire. C'est bloqué là-haut. Il faut que tu prennes une bracha de quelqu'un qui retient sa bouche quand il y a une bagarre. Tolé, Eretz Ablima, le monde tient sur des gens qui retiennent leur bouche quand il y a la bagarre. Bon, il sort de chez Ebrahim, où j'ai trouvé cet oiseau rare. D'accord. Bon, il va à une bar mitzvah, il s'assied. Cool, le même troupeau que je racontais maintenant, t'as un type assis à côté de lui, il y a un autre qui vient, il dit, crétin, quoi crétin, triple crétin, il commence, le type va aller, lui, il saute dessus, je t'en prie, ne lui réponds pas. Mais quoi, ne lui réponds pas, je t'en prie. Mais t'as vu comment il me traite, je ne peux pas continuer comme ça. Ne lui réponds pas. Bon, je me rends, l'autre continue, en public devant tout le monde. L'autre dit, non, je t'en prie, je ne vais pas t'expliquer, ne lui réponds pas. Bon, comme je vous fais en cours, d'accord, pendant 10 minutes comme ça, le petit qui n'en peut plus, à la fin, il se retient vraiment. Le type parle, qu'est-ce que tu veux de moi? T'avais toujours. C'est pas possible. Écoute, Ça fait 20 ans que je n'ai pas d'enfant. Je vais voir Abraham, je sors de chez Abraham. Il m'a demandé une bracha de quelqu'un qui se retient sa bouche quand il y a une bagarre. Bénis-moi. Il a béni, et sa femme est tombée enceinte. Le pouvoir de retenir sa bouche, messieurs. C'est beau en discours, hein. Quand vous mariez, vous allez voir comment c'est, d'accord? Tu sais, la shiva, c'est facile, parce que les gens... Un homme avec un homme, c'est souvent normal. Mais l'homme et la femme, ça n'a rien à voir. Et tu fais tout pour le faire passer comme il t'a demandé, puis elle se met à pleurer. C'est exactement ce qu'elle voulait pas, mais je comprends pas. Tu devais deviner, mon cher. D'accord? Bon, c'est un peu compliqué. Vous aurez une formation avant le mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as actionné chez toi l'attribut de miséricorde. D'après la justice, tu as droit. D'après la justice, le type là, il mérite que tu le répondes. C'est vrai. C'est le din, la justice. Et mon vieux, le monde ne fonctionne pas d'après le din. Si Dieu m'a t'envoyé chez toi, il te juge d'après le din, tu n'as aucune chance. Aucune chance. Personne au monde a droit à la vie. Par justice. T'as droit à rien. On t'a créé. Dis merci. T'as droit à rien. Notre seul espoir, et c'est marqué dans ma sacerdoche, dans le traité Rosh Hashanah, Hamavir al Midotav, Maverim al Kol Psha'av. Celui qui passe outre ses midot, c'est-à-dire ses traits de caractère qui lui disent d'après, d'utiliser maintenant l'attribut de justice, vas-y, réponds. Celui qui se retient, alors on retient quoi? Tous ses péchés. Tous ces péchés. Dieu vient te juger maintenant. Vient le tribunal de justice qui veut dire, bon, on a ici une liste, amenez les wagons toute l'année. La Shonara, Niboul Pei, il parle de filles, il crie, casse, bitoul Torah, la prière qui vaut rien. Ben, est-ce qu'on a une journée? Chaque journée, c'est un wagon, d'accord? Maintenant, il mérite. La justice dit, t'as vu? Ça, il mérite une facture terrible. Dieu, il est juge. Il est juge d'après justice. Ok, c'est bon, ben on va lui... Attends, on va voir comment lui se comporte maintenant. Comment lui se comporte? Lui, maintenant, en face de quelqu'un, il voit le type, il se dit, mais ce type-là, mais j'ai des wagons de factures à lui. Je le cognais. Je vais hurler, parce que d'après la justice, là, maintenant, il a tort. J'ai des très bonnes raisons de lui rentrer dedans. Dieu, il a des très bonnes raisons de te rentrer dedans, te juger maintenant une très ratérée pour cette année. Chassé shalom. Alors, comment tu te comportes? Quand toi, t'effaces l'ardoise. Alors, Dieu dit, tu vois, c'est vrai, justice, il dit l'attribut de justice. C'est vrai, tu as raison après justice, mais lui, il ne fonctionne pas d'après justice, il fonctionne d'après miséricorde. Donc, moi, je prends miséricorde. Je passe outre. C'est notre seule chance, messieurs. Seul. Seul. Alors, tu dis quoi? Les actions, c'est un produit du comportement. Je répète ta question. Tu dis que le comportement, il vaut plus que les actions. Oui. Parce que quelqu'un qui n'a pas corrigé son comportement, ses midotes, ses qualités d'âme, il pourra forcément, il va transgresser des actions. Il n'y a pas la chonara. Il va en vouloir. Il va être jaloux. Il va s'énerver. Tout ça, ce sont des avérotes qui proviennent quoi? Du mauvais caractère. Il faut changer le caractère. Arriver à être carpette, le maximum. Moshe Rabbeinu, quelqu'un de plus grand que Moshe Rabbeinu. Quelle est la louange que la Torah a à faire sur lui? Quand Aaron et Myriam parlent la Shonara sur lui, et qu'ils ont tort, et lui pour leur dire, écoutez, vous trompez sur moi, et puis c'est pas bien ce que vous faites, il dit rien. Et là la Torah dit, Vaïch, Moshe, Anav, et l'homme Moshe est le plus humble de tous les hommes qu'il y a sur terre. C'est-à-dire, quand tu pourrais parler, tu dois parler, et tu t'écrases. Et c'est pas facile. Parce qu'il y a une guerre dedans. Genre, je suis pas un pigeon. Les arguments crétins, d'accord? Je suis pas un pigeon. Ça va dire qu'il y a des limites, carpette, mais tu vas te marcher dessus beaucoup trop. Alors on me dit, alors toujours, on peut. Non, tu peux après. Dans le cadre de, à la maison avec la femme. Ici, dans la chambre, d'accord, ça fait une semaine qu'il vient du poil gratter tous les jours. Enfin, on vient un truc. Je sais pas moi. Il marche tous les jours, il marche avec. Il doit prendre l'armoire qui est au-dessus de ton lit et il marche avec ses chaussures sur ton oreiller. Tu as expliqué une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, six fois, sept fois, tu vois maintenant huitième fois dans la chambre, tu vois de nouveau en pleine action, un flagrant délit, les chaussures, sur ton oreiller. Bon, tu peux commencer à t'énerver. D'accord? C'est un cadeau de Dieu. T'imagines un peu ce que Dieu a. Dieu, il veut que tu pardonnes tes péchés. Il a réussi à trouver un type assez tordu, d'accord, il faut le faire, hein, qui après 8 fois monte encore son oreiller avec. Il faut le faire. Et on a comme ça des gens ici, là, ça arrive d'avoir des gens tordus. C'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu que tu peux maintenant danser. Voilà, j'avais des ardoises terribles. Schlack! Plus rien. Mavarim, alcool, tous ces péchés. Quelque chose de plus beau que ça. Celui qui peut mériter que dans ces jours-ci, maintenant, Rosh Hashanah, on lui fasse honte en public. Il rougit devant tout le monde. Et cela ferme. C'est plus grand des cadeaux. Parce que c'est marqué que faire rougir quelqu'un, c'est comme l'assassiner. C'est Shfichut Damim. Tosfot dit que ça fait partie des choses que mieux se faire tuer que de transgresser. Si quelqu'un me dit, ou je te tue, ou tu fais rougir quelqu'un en public, je dis tue-moi. Parce que ça signifie l'assassiner. Si quelqu'un mérite ça, il ne réagit pas, mais il va pépère au Shoshana. Il se lève à 10h, mais après le chauffard, il est pépère. Il a gagné, il a tout gagné. Parce que c'est quoi? C'est comprendre qu'il y a, il y a un Dieu, et je ne suis rien. Et c'est de la émouna, c'est de la foi en Dieu. Quand quelqu'un, juste ma chute, parce qu'on parlait de l'Aïnara, d'accord, c'est clair à mes yeux que quand quelqu'un se comporte comme cela, alors il y aura moins de. L'Aïnara ne peut pas avoir trop d'emprise sur lui. Pourquoi? Que fait le Aïnara? Après, on reviendra à vos questions, d'accord? Que fait le Aïnara? Le Aïnara, il excite l'attribut de justice. Quand tu le regardes comme ça, tu dis, t'as vu la belle voiture qu'il a? Psh, t'as vu? Psh, qu'est-ce qu'il est intelligent? Psh, qu'est-ce qu'il est beau? Psh. Alors, les paroles, ça va quelque part. Tout a un impact. Ça va, l'attribut de justice, il est, psh, la voiture, psh, il est beau, psh, il est riche, psh, il est intelligent. Mais t'as vu? Eh oh Dieu, regarde-moi ça. Lui, il a ça et ça et ça et ça et sa qualité. T'as vu tous les péchés qu'il a fait? Il mérite une trecha. Ça révèle l'attribut de justice. Dieu, il est juste. Il va dire, ok, ben, voyons voir miséricorde. Miséricorde, ben, c'est pas la droite, c'est pas la joie. Il s'énerve, machin. Bon, t'as raison, justice. Allez, bam! Le Ayin Hara, c'est quelque part, lorsqu'il y a un dossier de justice qui est dans un peu, ça fait ressortir le dossier. Tchic, on l'ouvre. T'as vu tout ce qu'il a? Ce mot, t'as vu tout ce qu'il a, il monte là-haut. Et le côté négatif prend, t'as vu, en bas, ils sont d'accord avec moi, ils ont tout ce qu'il a. Il ne mérite pas. Oui, c'est vrai. Bon, ben, c'est vrai, mais ça t'empêche de faire tchouva. Si t'avais fait tchouva, la tchouva est partout. J'ai pas compris. Attends, pas tous à la fois. Il n'y a pas de justice, toi tu n'as rien fait, c'est la même chose que votre question. Il l'a fait.
Non, c'est de la miséricorde, il n'y a pas de justice. Ça ne colle pas ensemble, on ne peut pas mettre des lois et une loi qui s'appelle la miséricorde qui transforme ces lois-là, qui efface ces lois-là. Moi j'ai fait un péché, selon la loi je dois recevoir.
D'accord.
Un truc, mais il y a une loi qui s'appelle la miséricorde qui peut m'effacer.
D'accord. Alors et... le Misat Yesharim, il explique que la miséricorde elle n'efface pas la justice, elle l'adoucit. C'est-à-dire que le péché n'est pas effacé, il faut tchouva. Et ça, c'est, on peut comprendre que quelqu'un qui regrette vraiment ce qu'il a fait, il est profité de changer. Il y a une logique qui dit, ok, je passe l'éponge. Mais comme ça, pour rien, c'est certain que non. Maintenant, la logique peut aussi comprendre, s'il ne fait pas tchouva, c'est pas qu'il n'y a pas de facture. Il y aura, mais je laisse le temps. Je laisse le temps. Le temps, ça y est. Dans n'importe quel cas aussi, même la justice normale, elle dit, ok, on te laisse un sursis, d'accord, ça arrive. Donc, c'est pas que la justice, on l'enlève. On donne la miséricorde, elle adoucit, elle repousse, elle dit, ok, il y aura justice, mais laisse-lui, on lui donne la chance de. Donc, il y a la justice, mais aussi l'adoucir. Toi, tu as dit, mais chacun a des péchés. Tu m'as dit quoi, il n'a rien fait. Il a fait. S'il n'avait rien fait, quelqu'un qui est nickel, il a pas, il peut aller face au plus grand Aïnara, il est nickel. Mais qu'est-ce que je dis? Je dis, on lui a mis l'œil, on lui pss, 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 sur lui. D'accord, t'as vu tout ce qu'il a, tout ce qu'il a. Dans le ciel, maintenant, ça va réveiller quoi? Le côté négatif va dire, regarde ce type-là. Moi, je suis d'accord qu'il est tout. S'il mérite, justice. Or, il a ça. Et il commence à rappeler tous les péchés qu'il a fait, toute l'ardoise qu'il a. Donc, c'est pas le regard de l'autre qui a provoqué. Le regard de l'autre a provoqué qu'on rappelle ses péchés au type. Donc, le type, il a des péchés. À cause de qu'on rappelle, mais c'est pas faux. Après tout, il les a fait, ses péchés. Bon, ben voilà. Il payera pour ça. Celui qui a fait Aïnara, c'est marqué, on le jugera. On le juge. Alors, il faut dire Bla Aïnara. C'est bien de dire, quand tu fais un compliment sur quelqu'un, vraiment avec gentiment, sans Aïnara, sans étroitesse d'esprit, il faut rajouter Bla sans Aïnara ou Ben Porat Yosef. Oui, c'est vrai que même des parents sur leurs enfants peuvent faire Aïnara. Ah, ce qu'il est beau, nos filles, ce qu'il est beau, ce qu'il est beau, et échelon. Donc c'est bien de dire Bla Aïnara. La jalousie automatique, c'est ce défaut de fabrication que nous avons tous, d'accord, de Cain et Abel, qu'il faut corriger. Alors oui, Ilan. C'est pareil pour le contraire, c'est-à-dire quelqu'un qui a des problèmes et que les gens le plaignent, j'imagine que ça réveille la miséricorde divine sur lui, oui, c'est certain. Ça révèle la miséricorde, donc c'est certain que c'est bien. S'il y a une prière dans ce sens, misken, Dieu sauve le... D'accord ? C'est certain que... Oui. Pardon ? Comment avoir le Aïnatov ? Comment corriger le défaut de fabrication que Caïn nous a mis ? Comprendre que je ne suis pas en concurrence avec l'autre. Chacun a reçu ce qu'il est bien pour lui. Nous sommes tous frères maintenant pour servir Dieu. Et que s'il lui réussit, c'est bien, on est le même corps. S'il lui réussit, alors j'ai réussi aussi. Et que le fait que ça me dérange qu'il ait, le seul qui perd là-dedans, c'est moi. Parce que lui, il a reçu ce qu'il lui faut pour lui, et c'est pas ce qu'il me faut pour moi. C'est parce qu'il a, et que la voiture qu'il a reçue, d'accord, ou le don qu'il a, c'est un don qui est bien pour lui, qui est pas bon pour moi. C'est son job. Et si moi j'avais le même don que lui, je raterais mon job. Comprendre que ma réussite, c'est pas par rapport à l'autre. J'ai aucune concurrence avec les autres. Moi, je dois réussir mon job par rapport à Dieu. La réussir, c'est pas par rapport aux critères que Dieu m'a donnés. Lui, c'est un meilleur musicien, c'est un meilleur étudiant en Torah, c'est un plus grand tzaddik, d'accord ? Lui, avec l'âme qu'il a reçue, c'est son job qu'il a à faire. Je ne suis pas en concurrence. Moi, mon job, c'est réussir avec ce que j'ai reçu. J'ai une chose à faire, qui n'est pas ce qu'il y a à faire, lui. Donc, c'est comme si maintenant, lui, il va à Rome et l'autre, il va à Londres. On va être en bagarre. Quoi ? Où est le rapport ? Si les deux, on doit arriver à Rome, le premier, ok, t'as raison, deux, on va dans le même but, on a le même job à faire, qui est le meilleur ? Je suis en concurrence. Mais si, on n'a rien à faire. Toi, tu dois aller à Rome, moi, je dois aller à Londres. Okay, on n'est pas en concurrence. Ok, réussi, bon voyage, toi aussi, bon voyage. Ah, t'as réussi, je suis content, bravo, 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 Hachem. Oui.
Quand on dit par exemple à quelqu'un qui a une belle voiture, ça veut dire, c'est déjà qu'il a une belle voiture.
Comme j'ai dit, les paroles ont un impact. Donc là, la parole, elle va quelque part. Tout ce qu'on dit a un impact. Dernière question. Deux dernières questions. La légitime défense. Oui, ça existe au niveau de la justice. C'est légitime. C'est quoi légitime ? Ça vient du mot lex en latin, c'est la loi. D'après la loi, tu as raison. Mais si tu veux aller d'après la loi, Dieu va dire, moi aussi je veux d'après la loi, mon vieux. Je ne te dis pas qu'il faut se laisser faire, tu peux te défendre, d'accord. Mais maintenant, je te prends un exemple clair. Il monte avec ses chaussures sur ton oreiller, tout blanc, qui vient sortir pour la 8e fois, c'est aujourd'hui du pressing, d'accord ? Par exemple. Bien sûr, on peut se défendre, on doit se défendre. Mais je parle de cas où il te fait honte en public, il te traite de tous les noms, d'accord ? Oui. Donc la question, si on est entouré de gens qui nous font des compliments sur ça, ça, ça ou ça, d'accord ? À mon avis, tu ne te casses pas la tête, tu continues, tu as confiance en Dieu. Dieu n'empêchera pas le bien de venir pour ceux qui verront Tamim, qui sont confiants en Dieu. Baruch Adonai, l'homme de la mer.